Bon, bonsoir. Alors, la semaine dernière, on avait, et la semaine d'avant également, on avait abordé quelques avant-gardes européennes. Et en fait, on va se déplacer de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, dans les années 50 et les années 60. Et on va voir de quelle façon les États-Unis ont ingéré, digéré les recherches européennes pour se lancer à leur tour en tant que nouvelles avant-gardes. Alors, je l'ai évoqué la dernière fois, brièvement, la Deuxième Guerre mondiale et l'immigration d'un certain nombre d'artistes européens vont préparer l'avènement d'un authentique foyer artistique américain. À cette époque-là, Paris perd un peu de son lustre, Paris perd son statut de capitale artistique, et peu à peu se met en place, via cette immigration d'artistes européens aux États-Unis, peu à peu se met en place une véritable émulation. Les artistes américains sont nourris des influences européennes, prennent confiance en eux, en leur art, et ils vont aspirer à égaler, voire à dépasser ces artistes européens pour créer quelque chose de spécifiquement américain, quelque chose d'inédit. Ça, c'est vraiment une conscience qui est très flagrante à cette époque. C'est évidemment le point de vue de ces artistes qui ont l'impression de faire quelque chose d'inédit, mais c'est aussi l'impression des collectionneurs et des critiques d'art. De ce point de vue-là, je citerai notamment le livre d'Irving Sandler qui est publié en 1970, et ce livre s'intitule « Le triomphe de l'art américain ». Donc ça, c'est tout à fait symptomatique de cette confiance nouvelle, de cette foi nouvelle en l'art américain. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un art qui va être profondément promu, encouragé, financé par des collectionneurs et par des marchands d'art. Alors, cette évolution-là, en fait, elle est progressive. C'est pas la déliquescence de l'art européen qui a provoqué l'avènement de l'art américain. Ça serait être un peu caricatural et un peu schématique de dire ça. En fait, cette évolution, elle est le fruit de tout un faisceau de conjonctions, tout un faisceau de facteurs. Déjà, ces artistes ont une véritable cohésion. Il faut bien avoir à l'esprit notamment le contexte historique, culturel de l'époque. Hein. Dans les années 30, l'Amérique traverse une crise économique sans précédent et l'État va impulser un certain nombre de mesures pour financer des travaux d'artistes. Toutes ces mesures-là, engagées par Roosevelt, vont en quelque sorte créer une communauté d'artistes. Non seulement ces artistes vont participer à des travaux communs et vont être financés, donc leur statut est valorisé, mais en plus, le fait d'être finalement dans la même galère et le fait d'être financé par l'État va véritablement créer une solidarité entre eux. Ça, c'est le point très important. Autre point important, il y a un certain nombre d'artistes américains qui, grosso modo à partir des années 30-40, vont contester les avant-gardes européennes. Certains les accusent de colonialisme esthétique, hein, ce sont leurs mots, et ces artistes revendiquent un art proprement américain. Alors c'est le cas notamment de Thomas Hart Benton, qui est le grand peintre régionaliste américain des années 30, des années 40. C'est un peintre qu'on abordera un peu plus longuement tout à l'heure, étant donné qu'il a un rôle important dans toute la formation de l'avant-garde américaine dans les années 50. Jackson Pollock, qu'on évoquera tout à l'heure, a étudié notamment auprès de Thomas Hart Benton. Et donc Thomas Hart Benton va célébrer la vie américaine, va célébrer les grands clichés du pays. Bon, là, en l'occurrence, on a une scène rurale, une scène agricole qui célèbre donc les grands espaces américains. Et pour la petite histoire, une des caractéristiques de Thomas Hart Benton, c'est cette espèce de ligne mouvante. On a toujours l'impression que la peinture est très vibrante, très vivante. On le verra là aussi tout à l'heure plus précisément. Ça, c'est vraiment quelque chose propre à Benton. Autre artiste dont l'enseignement également va être extrêmement important, c'est Hans Hofmann. Hans Hofmann, c'est un artiste, c'est un professeur, c'est également un théoricien, et il va avoir un rôle fondamental dans la mesure où, auprès de ses élèves, il prône la libre expression du geste et de la couleur, et en cela, il préfigure totalement les recherches américaines des années 50 et des années 60. Il a une œuvre pléthorique, hein, Hoffmann. Là, j'ai choisi de vous présenter le poète qui est conservé à Chicago. Donc une peinture qui abandonne pratiquement complètement la figuration, et on a une œuvre quasi abstraite, et surtout ce jeu sur la couleur ce jeu sur le mouvement de l'artiste également, ça c'est très important, et ça va avoir des conséquences très très fortes sur les mouvements des années 50 et des années 60. Autre influence, alors malheureusement j'ai pas d'illustration, c'est celle des muralistes mexicains. Je pense notamment à Diego Rivera. Tous ces artistes mexicains travaillent évidemment au Mexique, mais travaillent également aux États-Unis, notamment en Californie. Et la caractéristique de ces peintres-là, c'est déjà le réalisme, et c'est surtout le choix d'adopter des formats immenses. Et ce choix-là, d'adopter des formats très importants, des formats monumentaux, ça va également profondément influencer les artistes des années 50 et des années 60. Autre point, c'est un petit peu schématique, mais c'est vraiment important de planter le décor. Autre point important, en 1937, la création du groupe des AAA. Alors le groupe des AAA, ce sont les artistes abstraits américains. Et là aussi, ça vous montre bien cette volonté de ces artistes de créer une véritable solidarité, une véritable cohésion. Ça montre aussi, mine de rien, qu'ils ont confiance en leur art et qu'ils veulent se fédérer, se réunir afin de le promouvoir. La création des AAA, c'est assez intéressant. En fait, c'est en 1936, il y avait eu une vaste exposition au MoMA, au Museum of Modern Art, une vaste exposition sur l'art abstrait. Et paradoxalement, cette exposition avait totalement évincé les artistes américains. Et en fait, c'est à cause de cette éviction que ce groupe d'artistes abstraits américains a été créé, afin de valoriser et de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. Et puis enfin, autre influence très très importante, alors je l'ai évoqué à mi-mot tout à l'heure quand je parlais de l'immigration des artistes européens, c'est l'influence du surréalisme. Les artistes américains vont être amenés à fréquenter ces surréalistes qui ont fui l'Europe et qui ont fui la guerre, et ils vont être amenés à fréquenter des personnages qui étaient auparavant jugés intouchables. Cette espèce de désacralisation va leur donner une assurance nouvelle, et surtout cette ambition nouvelle, cette ambition inédite, égaler, voire surpasser l'art européen. Lorsque j'évoque des artistes surréalistes, je pense par exemple à Max Ernst. Max Ernst, à cette époque, dans les années 40, est marié à une très très riche collectionneuse, Peggy Guggenheim, qui est une férue d'art contemporain et qui va notamment ouvrir à New York une galerie qui s'appelle la galerie, traduit c'est l'art de ce siècle en fait. Et dans cette galerie, justement, les surréalistes exposent évidemment, mais il y a aussi tous ces peintres américains des années 40 qui sont amenés à montrer leurs œuvres. Et cette galerie Peggy Guggenheim va être un véritable lieu de rencontre et un véritable lieu de discussion entre artistes européens et artistes américains. Donc, à l'orée des années 40, apparaît à New York ce qu'on appelle l'école de New York. Alors en fait, il y a une diversité de styles derrière cette appellation, c'est un peu arbitraire comme dénomination. On a l'impression d'un mouvement unitaire, alors que pas du tout. Il y a une pluralité de mouvements, et il y a deux courants principaux, l'action painting et le color field. Derrière ces deux noms anglais, alors qu'on pourrait traduire comme l'action de la peinture, on va dire, et le champ coloré, derrière ces deux courants, derrière ces deux théories, il y a deux critiques américains prépondérants pour le XXe siècle, c'est Clement Greenberg et Harold Rosenberg. Clement Greenberg a une foi absolue en l'art américain, c'est quelqu'un d'extrêmement chauvin, d'extrêmement emballé également, passionné par l'art américain, et pour lui, l'art américain va écraser totalement l'art européen qui est jugé obsolète, désuet, profondément has-been. Et Clement Greenberg va mettre en exergue ce qu'on appelle le color field, donc tous ces artistes qui vont s'orienter vers la libre expression, la pleine expression de la couleur. De l'autre côté, on va avoir Harold Rosenberg qui, lui, va forger le concept d'action painting. Et là, ce n'est pas vraiment la couleur qui prime, c'est le mouvement. En fait, c'est le mouvement qui préside à la création du tableau. Et finalement, c'est le mouvement, quelque part, qui prime sur la création proprement dite. Harold Rosenberg a une phrase extrêmement belle et forte pour décrire ce que c'est que l'action painting. Je le cite. À un moment donné, les peintres américains se sont mis à considérer, l'un après l'autre, la toile comme une arène, comme un lieu pour agir plutôt que pour reproduire, reconcevoir, analyser ou exprimer un objet, réel ou imaginaire. Ce qui allait se produire sur la toile, ce n'était plus un tableau, mais un événement. Donc ça vous montre bien le côté sauvage de cette peinture. Finalement, l'artiste, c'est un peu comme un toréador autour de sa toile. Tout n'est que mouvement et ces artistes s'engagent pleinement. Il y a un corps à corps qui se fait avec la toile. On va le voir tout à l'heure avec Jackson Pollock et j'ai notamment, normalement, une photo de Jackson Pollock en train d'évoluer autour de sa toile. Et c'est vraiment, il y a quelque chose qui relève du combat. Et il y a aussi quelque chose de très cathartique dans ce corps à corps. C'est-à-dire que finalement, l'artiste se livre totalement et la gestuelle devient un peu comme le sismographe de l'inconscient. Ça, c'est vraiment très très propre à ce courant de l'action painting. Alors, un artiste très important va avoir un rôle dans cette création-là, c'est Achille Gorki. Achille Gorki, c'est un peintre d'origine arménienne. En fait, il part aux États-Unis pour fuir le génocide arménien. Et son parcours illustre bien l'influence des avant-gardes européennes. Au départ, il est influencé par le cubisme, et puis après, c'est la grande découverte du surréalisme, et ça va profondément changer sa façon de voir les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des surréalistes émigrent aux États-Unis, et ça va être l'occasion pour Achille Gorki de les fréquenter et d'apprendre à leur contact. Et en fait, c'est via le surréalisme que Gorki va trouver son propre style. Et en fait, Gorki travaille à partir d'improvisations. Ce sont des improvisations picturales. En voici un exemple là. Et donc, il s'inspire des méthodes surréalistes, de cet attrait pour l'inconscient, pour une liberté de création qui ne serait pas entravée par des normes et par justement ce conscient-là. Sauf que la chose qui diffère, mine de rien, c'est que Gorki laisse une place infime au hasard. C'est-à-dire qu'il s'inspire du hasard, il s'inspire de ce flot de l'inconscient, mais il reste quand même maître de son œuvre. Une œuvre comme celle-ci, qui est conservée au Canada, par exemple, est précédée de nombreuses esquisses. On n'a pas récupéré tous les travaux préparatoires de Gorki, mais on sait qu'ils existent, et très vraisemblablement, ils présidaient à la création de l'œuvre finale. Donc chez Gorki, il y a quand même cette part de l'artiste qui reste pleinement le chef tout de même de son œuvre. Le titre là, donc je ne vais pas le dire en anglais parce que ce serait ridicule, donc je vais vous le traduire, c'est Bien aimé carbonisé. En fait, ça fait référence à l'incendie de son atelier et c'est dans ce sens qu'il faut lire ce tableau qui est envahi par des couleurs noires, par des couleurs grisâtres et puis par ces effets de fumée, on dirait, cette peinture retravaillée qui évoque l'incendie. Donc la première génération de peintres abstraits aux États-Unis va s'affirmer en fait à partir de 1945 et ce jusqu'à la fin des années 50. Et cette génération-là a des ambitions très importantes, des ambitions qui sont totalement relayées par la critique, ça leur insuffle vraiment une confiance très forte. Et ce qui va changer par rapport à cette tradition européenne qui est jugée obsolète, c'est la conception, c'est la mise en œuvre et ce sont aussi les formats. Je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont des formats monumentaux pour la plupart. Alors, on en arrive à Jackson Pollock. Jackson Pollock, ça va être un artiste fondamental dans cette Amérique des années 40 et des années 50. C'est un peintre qui naît en 1912, il meurt en 1956 et il va étudier en grande partie à New York et notamment auprès de Thomas Hart Benton. Alors là, j'ai choisi une autre œuvre de Thomas Hart Benton. J'évoquais tout à l'heure l'aspect mouvant de ces peintures. Là, c'est tout à fait reconnaissable ici. On a vraiment l'impression que la Terre ondule et ça donne un côté très, très vertigineux, très tournoyant à la toile. Donc il étudie auprès de Thomas Hart Benton et va être profondément influencé à la fois par ses sujets régionalistes et à la fois par le style de Benton tout en rondeur et tout en mouvement. Going West, par exemple, est assez emblématique à cet égard. Hein. Donc on retrouve ce mouvement-là, on retrouve une scène de cette Amérique agricole, rurale. Par contre, les tons diffèrent un peu, il y a un côté beaucoup plus sombre. Bon, Jackson Pollock, c'est un peu l'archétype de l'artiste maudit. C'est un peintre qui a une trajectoire éclair. C'est un peintre alcoolique. C'est un peintre qui est hanté en quelque sorte hein, par cette addiction. Et puis c'est un peintre qui va être très iconoclaste dans la mesure où il va rompre totalement avec la tradition. Et très vite, en fait, on va l'ériger au rang de mythe. Il a une place très très importante à la fois concrètement à cause de ses œuvres et à cause de son art, mais il a aussi une place très très importante parce que il a ce côté cow-boy, ce côté mythique qui a insufflé quelque chose de nouveau et de profondément bouleversant à l'art américain. Alors Jackson Pollock va être très influencé par les muralistes mexicains, j'évoquais tout à l'heure cette influence-là, ses formats immenses vont le frapper et vont l'inspirer. Il va également être très marqué par l'art des Indiens d'Amérique. Et notamment, il s'intéresse à l'art chamanique. C'est quelqu'un de profondément animiste, Pollock, dans le sens où il se fond dans la nature et il vit son art comme une union avec la nature. Hein. Je disais tout à l'heure que certains de ses peintres, y avaient dans leur tableau quelque chose de très cathartique. Ben, c'est tout à fait flagrant avec Jackson Pollock. C'est-à-dire que l'artiste se livre totalement dans ses œuvres et c'est véritablement un corps à corps avec la peinture. Et même dans des œuvres comme celle-ci, qui sont plus redevables du surréalisme que de l'abstraction, c'est très visible. Pollock va être très influencé par un artiste qu'on appelle Roberto Matta. Roberto Matta, c'est un artiste d'origine chilienne qui va fréquenter un temps les surréalistes avant d'être évincé du groupe. Hein. J'évoquais la semaine dernière le côté très doctrinaire hein, du surréalisme qui évinçait à foison les artistes qui avaient le malheur de ne pas penser exactement comme eux. Et Matta donc va fréquenter un temps les surréalistes et son art évidemment en témoigne. Et Pollock va être frappé par cette peinture surréaliste, dans lequel le hasard prime, dans lequel le hasard a un véritable rôle créateur. Ça va beaucoup plaire à Pollock. Voilà, j'ai une toile de Matta, c'est bien ce que je pensais. Une toile conservée à Chicago. On voit donc que Matta travaille les lignes et travaille les couleurs de façon très libre. Et ce travail sur la ligne et sur la couleur va aussi beaucoup influencer Pollock. Je reviens précédemment juste pour vous parler plus précisément de cette femme lune. La femme lune, c'est une figure très présente dans les œuvres de cette époque, cette espèce de figure mythique. Et en fait, tout à l'heure, j'évoquais cette influence de l'art amérindien et de l'art chamanique. Justement, Pollock va prendre des motifs de mythes premiers et ça va beaucoup l'influencer. Alors, on en arrive à quelque chose de beaucoup plus abstrait pour le coup. Cette toile-là, murale, qui est conservée à Iowa City, c'est une toile immense, hein, elle fait plus de 6 mètres de long. Et en fait, c'est une œuvre de commande de Peggy Guggenheim. Hein, j'évoquais tout à l'heure Peggy Guggenheim, donc l'épouse à cette époque de Max Ernst, grande collectionneuse, grande mécène. Et Peggy Guggenheim donc commande cette œuvre et la commande s'enlise. Et Peggy Guggenheim s'impatiente, pressant Pollock de terminer cette œuvre. Pour la petite histoire, elle avait organisé une grande fête. Elle voulait absolument que la toile de Pollock soit exposée lors de cette fête. Et selon la légende, Pollock aurait réalisé cette toile en une nuit. Et en fait, il abandonne toute figuration pour peindre cet enchevêtrement de lignes ondoyantes, de lignes colorées. Et là, pour la première fois chez Pollock, c'est le geste qui commande l'œuvre. Et cette façon très nouvelle, très inédite, cette part accordée au geste, va être un véritable choc. Vraiment, cette toile, elle est très importante, à la fois dans l'art de Pollock et dans cet art qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Pour la première fois, le geste devient premier et préside finalement à la composition de la toile. Autre toile de Pollock, gothique, qui est conservée à New York, au MoMA. En fait, à cette époque, donc, Pollock va définitivement abandonner toute figuration, tout signe reconnaissable, et donc c'est ce geste qui devient, via une espèce de rituel chorégraphique, c'est le geste qui devient le centre de l'œuvre. Haute toile de Pollock, donc nombre 26 A, noir et blanc, c'est un tableau qui est conservé au centre Pompidou. En fait là, Pollock change un peu, c'est-à-dire qu'on n'a plus des taches, on n'a plus des amas de couleurs comme on voyait précédemment. Là c'est une autre technique, il innove, c'est une technique qu'on appelle le draping. Le draping c'est un véritable corps à corps avec la toile, là encore, en fait l'artiste... Ouais, en fait, j'étais sûre que j'avais choisi une photo de Pollock, mais je l'ai oubliée. Bon, bref, en fait, l'artiste donc déambule sur la toile posée à même le sol, donc c'est des formats immenses, et soit avec le pinceau, soit avec un seau de peinture troué, il laisse couler la toile. Et en fait, quand on voit des photographies, c'est véritablement une chorégraphie autour de la toile pour la mailler, la recouvrir patiemment de traces de peinture. Et donc, du coup, on a des toiles où la profondeur s'abolit totalement. On a ici donc des arabesques noires, irrégulières, qui maillent la toile, et du coup, ni début, ni fin, on est face à une sorte d'infini, qui est donc le résultat de cette gestuelle adoptée par l'artiste. Alors, j'ai trouvé dans un de ses écrits une très belle description de cette mise en œuvre-là. On retrouve justement tout ce côté chamanique, ce côté cathartique. Donc, je cite Pollock. Je préfère clouer la toile non tendue, au mur ou sur le sol. J'ai besoin de la résistance d'une surface dure. Sur le sol, je suis plus à mon aise. Je me sens plus près, je me sens plus une partie du tableau. Car comme cela, je peux en faire le tour, travailler des quatre côtés et être littéralement dans le tableau. Quand je suis dans mon tableau, je ne suis pas conscient de ce que je fais. C'est seulement après une espèce de temps de prise de connaissance que je vois ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas peur d'effectuer des changements, de détruire l'image, etc. Parce qu'un tableau a sa vie propre. J'essaie seulement de la faire sortir. Donc on retrouve, hein, comme je le disais tout à l'heure, ce côté cathartique. C'est-à-dire que l'artiste engendre son œuvre par cette gestuelle-là. Donc Pollock, je l'ai dit tout à l'heure, devient très rapidement un mythe vivant, à tel point qu'en 1949, le magazine Life lui consacre un article intitulé « Est-il le plus grand peintre américain vivant ?». Donc ça montre bien cette confiance nouvelle en l'art américain et en un art libre, indépendant, affranchi de toute influence européenne et surtout donc un art spécifiquement américain. C'était ça la grande fierté du moment. Autre toile, One, qui est conservée au MoMA, là encore. Donc, toujours cette technique du draping, hein, cette espèce de peinture coulée sur la toile, qui laisse donc une part à la spontanéité, au hasard du geste. Et évidemment, il faut bien avoir à l'esprit que des toiles comme ça, ça semble facile aux spectateurs de l'époque. Et cette rupture avec toute la tradition, aussi bien avec la figuration qu'avec la profondeur, ça choque. C'est une rupture totale avec les conventions et Pollock va avoir des détracteurs féroces. Mais il va également avoir des critiques qui sont très conscients du rôle novateur de cet artiste. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de son vivant, il est vraiment érigé au rang de héros mythique. Alors, autre artiste très lié à Pollock, hein, puisque c'était son épouse, c'est Lee Krasner. Lee Krasner, elle naît en 1908, elle meurt en 1984. Et donc, évidemment, pendant leur vie commune, il va y avoir une influence mutuelle entre les deux artistes. Je parle d'une influence mutuelle parce que c'est une artiste qui a été vilipendée ou du moins vue avec une certaine complaisance dans le sens où on disait qu'elle avait été dans l'ombre de Pollock et que ce n'était qu'une pâle épigone. Alors que pas du tout. Elle a vraiment développé son style propre et il y a un véritable dialogue qui se met en place entre les deux artistes. C'est vraiment, ce sont vraiment des échanges très féconds. Donc sans titre, conservé à New York, et donc là aussi on retrouve hein, cette peinture qui maille la toile. Donc la qualité doit être épouvantable. En fait, ce sont des peintures où il y a une multitude de couleurs, hein. Ce sont vraiment des peintures vibrantes. Là, ça fait tache, mais voilà, le PowerPoint n'est pas très flatteur pour ce type de peinture. Mais il y a vraiment quelque chose de très vivant et de très physique dans ces toiles-là. Autre artiste, Willem de Kooning. Alors, Willem de Kooning, c'est un peintre originaire des Pays-Bas qui naît en 1904. et il meurt en 1997. Et alors lui, il oscille entre abstraction et figuration. Il n'abandonne jamais l'un ou l'autre. Il revient soit à la figuration, soit à l'abstraction, selon son humeur, selon ses influences. Et un thème qui revient de façon récurrente dans l'œuvre de Kooning, ce sont les femmes, les women, qui sont des femmes qui ont profondément choqué la critique de l'époque, dans le sens où on a des représentations de femmes assez monstrueuses, l'air goulu, voire carrément vorace, et on a surtout la représentation de personnages effrayants, violents. Et Willem de Kooning adoptait une technique volontairement brouillonne, c'est-à-dire qu'il peignait ses œuvres et il n'hésitait pas à les retravailler au fusain pour donner ce côté un peu sale. C'était totalement délibéré de sa part, mais ça n'a pas forcément été très bien perçu à l'époque. Bon, cette œuvre-là, par exemple, est assez emblématique de cette série des femmes. Tout à l'heure, j'évoquais le caractère un peu monstrueux, un peu cauchemardesque de ces créatures. Et là, effectivement, quand on voit cette femme-là, on a une figure très, très oppressante, très obsédante, brossée nerveusement. Donc ça augmente cette impression d'effroi qu'on peut ressentir à la vision de ces personnages. Alors, je disais tout à l'heure qu'il flirtait également avec l'abstraction. Ça, c'en est un bon exemple. Dans cette toile-là, de Kooning, un peu à l'instar de Pollock, accorde la primauté au geste pictural. Et de Kooning, lui, travaille avec la brosse, hein, avec le pinceau. Et c'est toujours, c'est un corps à corps, mais là, du coup, un corps à corps direct. Ce sont toujours des vigoureux coups de brosse, des balafres de couleurs. Il y a quelque chose de très violent et de très sauvage dans l'art de Kooning. Autre femme, donc là aussi on retrouve un peu ce côté inquiétant de la femme, et un des reproches justement qu'on faisait de façon très fréquente à l'encontre de ces créatures, c'était le côté pervers et le côté ambigu de ces représentations. Franz Klein. Alors Franz Klein, c'est un artiste qui naît en 1910, il meurt en 1962. Alors lui, il se tourne vers l'abstraction après avoir rencontré justement Pollock et de Kooning, et c'est vraiment l'un des grands représentants de l'action painting. Et en fait, le vocabulaire de Franz Klein, c'est le noir et le blanc, pratiquement exclusivement. Il va réintroduire la couleur juste à la fin des années 50, donc toute cette période-là, il travaille exclusivement sur le noir et le blanc. Et chez Franz Klein, la couleur a une valeur très, très structurale, très constructive. Hein, c'est véritablement le noir qui donne cette ossature à la toile. Voilà, painting est un bon exemple de cet art des années 50 de Franz Klein. Toutes ces œuvres de cette époque sont vraiment ordonnancées de la même façon, c'est-à-dire des formats peints de blanc, et ensuite ces vigoureux coups de brosse noirs qui viennent ordonnancer la toile. Donc ça, c'est la partie action painting formulée donc par Harold Rosenberg. Et puis donc il y a un autre courant qui se dégage, c'est ce qu'on appelle le color field, donc le champ coloré, on va dire. Donc ça, c'est une invention du critique Clément Greenberg, je le disais tout à l'heure. Et le point commun de tous ces artistes qui vont s'intéresser à la couleur, c'est cet intérêt, un peu à l'instar des fauves au début du XXe siècle, c'est cet intérêt pour les potentialités expressives de la couleur. Sauf que j'évoquais tout à l'heure les fauves. Les fauves, c'est quand même très figuratif. Et là, on frôle totalement l'abstraction. Cette toile est assez représentative à cet égard. Alors, on va commencer par Marc Roscoe. Marc Roscoe, c'est un peintre qui naît en 1903. Il meurt en 1970. C'est un peintre originaire de Lettonie. Et il va émigrer aux États-Unis un peu avant la Première Guerre mondiale, en 1913. Et Roscoe va d'abord être influencé par l'expressionnisme, puis, comme la plupart de ses compatriotes, par le surréalisme. Et puis, dans un dernier temps, c'est vers l'abstraction qu'il va se tourner. Il se lie avec Clifford Steele, qu'on évoquera tout à l'heure, qui est un des grands peintres abstraits de l'époque. Et donc, ensemble, ils vont travailler, expérimenter ces potentialités expressives de la couleur. Et chez Roscoe, une des grandes caractéristiques, ce sont ces surfaces rectangulaires, colorées, qui ont l'air comme en lévitation sur la toile. Hein. Ce côté très, très céleste, très impalpable, c'est vraiment une caractéristique de Roscoe, c'était quelque chose de voulu. Et donc, généralement, dans ces œuvres-là, les couleurs ne touchent jamais les bords, d'où cette impression de lévitation. Et d'où cette impression également d'aspect éphémère, impalpable. Ça, c'était vraiment une des volontés de Roscoe. Roscoe, il avait une dimension très, très mystique dans ses œuvres-là. C'est-à-dire qu'il avait vraiment cette volonté de toucher le spectateur, de l'émouvoir. Et tout ce travail sur la couleur, en fait, il superposait des couleurs un peu différentes. Tout ce travail-là sur la couleur n'avait pour d'autre but que de hisser le spectateur hors du réel, dans une espèce de dimension autre, où il pourrait s'abandonner à la libre contemplation de la couleur et à l'émotion à l'état pur. Alors, j'ai juste choisi cette œuvre-là de Roscoe pour vous montrer que, avant ces carrés de couleurs, il y a eu d'autres périodes où il travaillait plus les formes également. Donc, en voici un exemple. Et voilà, quelques années après, il trouve véritablement son style et en fait il va réaliser toute une série de toiles sur cette, qui sont un hommage à la couleur. Alors généralement ce sont des toiles qui n'ont pas de titre, hein, donc voilà son titre, conservé à Washington, qui est peint en 1949. On a également orange et jaune, donc toujours ce côté très vaporeux hein, de la couleur. Ce ne sont pas des rectangles de couleurs nettement délimités, non. Il y a vraiment quelque chose de très ténu, de très estompé. Marron et gris, j'ai hésité sur la traduction, bravo. Voilà, donc marron et gris, en fait, à la fin des années 50 et au début des années 60, Roscoe abandonne ces couleurs très chaudes pour des couleurs beaucoup plus froides et beaucoup plus sombres. Et la pression n'est pas du tout la même. Autant des tableaux comme ça, très solaires, touchent et bouleversent, autant des tableaux comme ça sont beaucoup plus inquiétants. Les émotions suscitées ne sont pas du tout les mêmes. Alors Clifford Steele, donc je l'évoquais tout à l'heure, puisque Roscoe et Steele vont être extrêmement liés. Clifford Steele, c'est un peintre qui naît en 1904, il meurt en 1980. Et l'art de Steele est caractérisé par ces zones de couleurs effilochées, déchiquetées, qui semblent flamboyer. Ça, c'est vraiment très propre à Steele. Donc, il est iconoclaste dans sa destruction de l'image, là encore, mais aussi dans le sens où il renie forcément le passé. Alors là, Steele, c'était vraiment quelqu'un de profondément violent à l'égard de toutes ces avant-gardes européennes. Autant certains artistes américains étaient conscients du legs européen et revendiquaient parfois ce legs, autant quelqu'un comme Steele va être beaucoup plus radical et beaucoup plus sévère dans ses jugements. Je le cite d'ailleurs. Donc un passage dans lequel donc il renie de façon féroce et de façon violente le passé. Où que nous puissions regarder durant les années 20, du côté des anciennes cultures ou de celui de nos propres mythes scientifiques, esthétiques et sociaux, nous avons manifestement trouvé très peu de réponses valables concernant l'intuition ou l'imagination. Ceux qui se sont tournés vers l'ancien continent pour y chercher des moyens d'accroître, ici, dans un pays plus neuf, leur autorité n'ont pas dissipé le brouillard. Ils l'ont encore épaissi. Mais comble de l'ironie, l'Armory Show de 1913 a déversé sur nous les conclusions truquées et stériles de la décadence européenne. Pour ma part, j'ai refusé d'accepter ces ultimatums. Ajouter à son corps de référence ou de sensibilité serait de ma part un suicide intellectuel. Donc, côté très, très radical de Steele. Au-delà de ça, Steele, tout comme Roscoe, a une dimension très visionnaire. L'œuvre de Steele a une dimension très visionnaire. Et cet artiste se sent, tout comme Roscoe, investi d'une véritable mission. Le but, c'est d'émouvoir le spectateur, de l'arracher à son quotidien. Et ça, c'est vraiment très sensible dans ses écrits. Donc, je le cite là encore. Je tenais pour impératif d'élaborer un instrument de pensée pour nous aider à trancher dans tous les opiums culturels passés et présents et atteindre ainsi une vision directe, immédiate et vraiment libre, une idée révélée dans toute sa clarté. Aucune clameur d'individualisme, aucune cabriole devant un morceau de toile, aucune manipulation de prétentions académiques ou de fétiches techniques ne peut vraiment nous libérer. Il fallait donc rejeter les valeurs superflues du matériau, ses propriétés, ses tensions et son éthique concomitante. Il était surtout indispensable d'échapper au piège des concepts banals d'espace et de temps, de ne plus s'accrocher au pape, plus laisser pervertir son courage par les instruments autoritaires du contrôle social. Alors, deux œuvres de style 1954, donc tout à l'heure je vous parlais de cet aspect flamboyant, là c'est assez sensible ici, bon déjà parce qu'il y a du rouge, mais même au niveau de ces traces noires de peinture, il y a quelque chose de très grouillant. Et sans titre, conservé à Chicago, où on retrouve ces traces, ces aplats de peinture et cet aspect très déchiqueté, non fini de la trace. Barnett Newman, c'est un peintre qui naît en 1905, il meurt en 1970. Donc là encore, hein, c'est encore un artiste influencé par le surréalisme. Cependant, il va très vite percevoir les limites du surréalisme. Le dessin automatique l'a séduit un moment, et puis très vite, il lui semble incomplet. Il le dit lui-même, je le cite. « La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment, si nous vivons à une époque sans légende ou mythe qu'on puisse qualifier de sublime, si nous refusons d'admettre l'exaltation née des pures relations, si nous refusons de vivre dans l'abstrait, comment pourrions-nous créer un art sublime ? Nous réaffirmons le désir naturel de l'homme pour l'exalter, pour un souci de recherche des émotions absolues. Nous n'avons pas besoin du soutien démodé d'une légende archaïque. Nous sommes en train de nous libérer des entraves de la mémoire, des associations, de la nostalgie, des légendes, des mythes, de tout ce qui a constitué les expédients de la peinture occidentale. L'image que nous créons est le produit évident d'une révélation, réelle ou tangible, susceptible d'être comprise par quiconque la contemple sans les lunettes nostalgiques de l'histoire. » Donc on retrouve hein, cette pleine confiance en l'art américain. Pour Newman, je vous présenterai donc celle-ci, sans titre, donc ce jeu sur la couleur, hein, ces vastes étendues de couleurs. Et puis cette toile-là qui est très importante, en fait c'est le zip. Alors ça va devenir une caractéristique de Newman. En fait la toile ici est traversée verticalement en son centre par une bande de ruban adhésif de couleur orangée. Et ce tracé vertical, donc il va le nommer zip, et ça va être le fondement de son œuvre à cette époque. Et en fait, chez Newman, on a donc des toiles généralement assez importantes, donc avec une couleur très forte, et il y a ce zip qui va barrer, qui va architecturer la toile et qui va lui donner son rythme. Alors, Onmant One en est un exemple. Autre exemple, le promis, conservé à New York. Donc là, on a deux zips qui zèbrent la toile. Et toujours cette omniprésence d'une seule et même couleur hein, qui recouvre entièrement le support. Robert Motherwell. Alors, Robert Motherwell, il naît en 1915. Il meurt en 1991, et ce qui est intéressant chez Motherwell, c'est que c'est un artiste, évidemment, mais c'est aussi un théoricien. Il a une formation philosophique, et il va écrire un certain nombre de réflexions sur son art et sur l'abstraction américaine. Il va véritablement intellectualiser sa démarche. Et donc Motherwell va voyager longuement en Europe. Il se frotte à toute cette peinture européenne des 19e et 20e siècles. Et il va être très influencé, notamment par les surréalistes, là encore. C'est une rencontre déterminante dans la mesure où les surréalistes vont l'encourager à laisser un peu de côté toute cette réflexion intellectuelle sur son art et à se lancer véritablement dans la création. Et c'est à partir de cette rencontre avec les surréalistes que Motherwell se consacre pleinement à son art. Je vais vous présenter deux tableaux de Motherwell qui ont tous le même titre, Élégie à la République d'Espagne, à la République espagnole. En fait, c'est un hommage à l'Espagne et c'est un hommage à tous les drames que le pays a connus durant la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, pour cette série des élégies, on a tout un langage de la couleur et un langage de la forme. On a ces traces noires qu'on voit ici et qu'on va voir également tout à l'heure, qui jaillissent de fonds lumineux et qui offrent un côté très, très funèbre et très rythmé à la toile. Donc voilà, autre exemple, hein, l'élégie à la République espagnole, numéro 70, conservée à New York également. Hélène Frankenthaler. Alors, Hélène Frankenthaler, c'est une artiste qui est née en 1928. Et en fait, elle appartient à la deuxième génération de ces peintres expressionnistes, donc une génération vivifiée par les apports de Pollock et de Kooning. Et en fait, c'est la figure clé. C'est une figure clé. C'est une figure clé parce que elle va être amenée à rencontrer donc ces peintres abstraits, elle va être très marquée par eux, et elle va s'en libérer pour créer autre chose. Et chez Frankenthaler, en fait, on a une sorte d'impressionnisme abstrait. C'est-à-dire qu'on a des couleurs, on a tout un jeu sur la couleur et sur la lumière, on a des choses extrêmement vaporeuses, impalpables. La technique d'Hélène Frankenthaler, c'était de tamponner la surface de la toile avec des pigments dilués. Et en fait, ces pigments dilués s'éparpillaient directement sur la toile, d'où ce côté un peu anecdotique, hasardeux. Et ça donne justement cet aspect très céleste, très, très nébuleux. Donc on voit là un exemple avec Mauve District, qui est conservé à New York, et qui est réalisé en 1966. Et autre exemple, Flood, Déluge, qui est conservé à New York également, et qui est réalisé un an plus tard, en 67. Maurice Louis, qui lui aussi hein, travaille sur la toile, la couleur s'éparpille librement sur la toile, donc il y a un côté là aussi très hasardeux. Maurice Louis... j'ai perdu ma feuille. Si, elle est là. Donc voilà, je vous présente Russette de Maurice Louis. Donc cette couleur donc qui s'éparpille librement sur la toile. Donc ce jeu du hasard. Autre exemple, Tête. Alors avec des couleurs beaucoup plus violentes et beaucoup plus gaies. Hein, toute cette alliance de bleu et de vert qui maille la toile de façon très uniforme et là encore très hasardeuse. Et puis Theta. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va réaliser un certain nombre de toiles avec des traits de couleur de part et d'autre de la toile. Et d'ailleurs, cette série-là va être intitulée la série des déployés. Il y a tout un tas de tableaux hein, qui jouent sur ce vocabulaire-là. Et en fait, donc, la toile est parcourue sur les parties latérales de traînées de couleurs. Et c'est la couleur, là encore, qui est très importante. Vous le voyez vous-même, hein, il y a une part énorme donnée au blanc. Il n'est pas forcément utile pour Louis de peindre entièrement la toile. Ce sont ces bandes dans les parties latérales qui vont donner le rythme et qui vont insuffler quelque chose de très coloré, de très dynamique à la toile. Donc voilà un exemple de cette peinture d'expressionnisme abstrait. Ces artistes connaissent un succès assez important. Et puis, bon, au bout d'un moment, on a l'impression que le mouvement arrive un peu à sa fin. Les critiques se multiplient, elles se font de plus en plus radicales. Et il y a un certain nombre d'artistes, Franz Stella notamment, qui veulent s'extraire de cette peinture hasardeuse pour revenir à une peinture qui soit le seul fait de l'artiste. Une peinture laborieuse, une peinture qu'on assume comme laborieuse. Voilà, il y a tout un tas d'artistes qui commencent à être lassés par cette subjectivité, par cette omnipotence de la subjectivité de l'artiste. Et pour quelqu'un comme Stella, la peinture ne doit renvoyer qu'à la peinture. Hein. C'est la seule réalité qui est l'idéal à atteindre. Alors, voici un exemple, le mariage de la raison et du sordide. C'est un tableau qui est conservé à New York. Alors, c'est de l'abstraction, hein, là encore, sauf que c'est une abstraction raisonnée, réfléchie. Stella ne va pas se balader autour de la toile, laissant le hasard guider ses couleurs sur la toile ou guider ses gestes. Lui s'intéresse à quelque chose de très construit, de très cérébral. Donc d'un côté, l'abstraction se tourne vers ça, et puis d'un autre côté, on aspire à quelque chose de moins tortueux. On aspire à plus de légèreté, à plus d'humour, à plus de recul sur cet engagement de l'artiste avec la peinture. J'ai choisi de vous parler d'une critique américaine qui s'appelle Amy Goldin, qui fait justement le point sur les innovations de ces années 50 et 60 et qui résume la situation. Et ça va me faire une super transition vers le pop art. Donc voici ce que dit Amy Goldin. En ce qui me concerne, la philosophie de l'expressionnisme, les théories sur une relation privilégiée entre l'artiste, ses matériaux et son public, c'est du pur Hollywood. Le genre de choses que l'on raconte dans les livres d'art pour salon de thé. le peintre, artiste du yo-yo, envoyant son être au bout du fil et le récupérant, miraculeusement chargé de transcendance grâce à un habile mouvement du poignet, le public, morose, qui susurre son désir, le regard vitreux à force de fixer le vide, l'artiste qui saute, risquant son va-tout, y arrivera-t-il? S'il réussit, nous aussi, tout le monde a un orgasme, c'est le bonheur. La quasi-totalité de ce qui a été écrit sur l'art expressionniste de toute espèce accepte sans discernement, sans analyse critique, cet art comme une illustration de l'esthétique expressionniste. Un consensus incontesté de l'opinion veut que cette peinture exprime les matériaux personnels de l'artiste et reflète sa relation émotionnelle au monde. Comme on dit, la peinture expressionniste est pur contenu. Les expédients formels ainsi que le sujet sont considérés comme les résultats naturels de la pulsion émotionnelle. La question de la qualité intrinsèque de chaque peintre est rarement posée. Les techniques expressionnistes ne sont pas examinées comme des éléments d'un style, mais comme les traces quasi involontaires de l'émotion. En tant que pur argument, ce discours est stupide. Donc ça résume bien cette lassitude vis-à-vis de cet aspect très cérébral et très intellectualisé de l'expressionnisme abstrait. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que va naître un art qui, lui, refuse toute abstraction et qui s'ancre pleinement dans le réel, même le réel le plus kitsch et le plus sordide, ça va être le pop art. Alors, le pop art, c'est un mouvement, en fait, qui naît de façon concomitante aux États-Unis et en Angleterre. Donc là, j'évincerai délibérément l'Angleterre pour me consacrer aux États-Unis. En fait, c'est un terme qui est inventé par un critique qui s'appelle Lawrence Alloway, à la fin des années 50. Et en fait, le terme de pop art, ça indique bien que l'art prend son inspiration dans la culture populaire, dans la culture de masse. Et en fait, il va s'inspirer de toute une imagerie, donc une imagerie parfois très très kitsch, donc le cinéma, la télévision, les starlettes hollywoodiennes, bref, tout ça va être célébré par le pop art. Je citerai les mots d'Henri Geldzahler, je dois écorcher son nom, c'est un critique américain, et donc il explique justement cette inspiration constante dans le quotidien, même le quotidien le plus vil. La presse populaire, les gros plans du cinéma, le noir et le blanc, le technicolor et le grand écran, les publicités extravagantes et pour finir la télévision avec laquelle ces images tapageuses ont fait irruption dans nos foyers, tout cela présente à notre société et par conséquent à l'artiste une imagerie tellement puissante, contraignante et omniprésente qu'il était impossible de ne pas en tenir compte. L'artiste regarde de nouveau ce qui l'entoure et peint ce qu'il voit. Nous vivons dans une société urbaine incessamment exposé aux masses médias. L'art pop est on ne peut plus actuel. Il est l'expression d'une sensibilité contemporaine, consciente de l'environnement contemporain. Donc finalement, le pop art, c'est un mouvement qui est créé en réaction contre l'expressionnisme abstrait, qui est jugé sans doute trop inintelligible. Et tout ce qui est censé exprimer l'âme de l'artiste est évincé, voire carrément méprisé. Et en fait, ce qu'on vise avec le pop art, c'est le détachement de soi, le détachement total. C'est-à-dire que cette position de l'artiste comme chaman qui vient concrétiser sur la toile tout son moi intérieur, toute cette position-là est écartée, ridiculisée, et on va revenir à quelque chose de beaucoup plus naïf et de beaucoup plus terre-à-terre. Donc c'est un changement radical. Autant l'expressionnisme abstrait, c'était quelque chose de très subjectif, de très intellectuel, et puis il y avait quelque chose d'animal, de viscéral dans ce corps à corps avec l'œuvre, autant le pop art, c'est quelque chose de totalement léché, aseptisé, et profondément impersonnel, c'est-à-dire qu'on va véritablement mettre de côté cette subjectivité, on ne la veut pas, on veut quelque chose d'aseptisé. Et justement, ce côté très impersonnel et puis cette intrusion grandiose de la culture de masse dans l'art, dans tout ce qu'elle a de plus vive et dans tout ce qu'elle a de plus kitsch, ça va faire l'effet d'une bombe. Alors je vous cite ici les mots d'Alan Solomon, dans un article publié dans Art International, c'est une revue très importante à cette époque, c'est un article publié en 63, et voici ce qu'il écrit. Les nouveaux artistes ont appliqué leur sensibilité la plus profonde à toute une série de manifestations déplaisantes, vulgaires, stupides et despotiques, des pires aspects de notre société. Loin de rejeter les produits déplorables et grotesques du commerce et de l'industrie moderne et l'incroyable prolifération de kitsch, ils se consacrent avec délices à ce que ceux d'entre nous qui ont réfléchi un peu considèrent comme le dépotoir de la publicité télévisée, des bandes dessinées, des stands de hot dog, des cimetières de voitures, des jukebox, des machines à sous et des supermarchés. Ils ne le font pas dans un esprit de mépris ou de critique sociale, ni même par snobisme, mais dans le sens d'une acceptation totale de l'état actuel de la société, une sorte d'approbation inconditionnelle. Donc évidemment, dans ce goût pour la société contemporaine, on songe à Dada, il y a ce même jeu sur le paradoxe, sur l'ironie, il y a des jeux de mots, des jeux sur les objets également. Et Duchamp va être très conscient de cette filiation-là. Duchamp, il n'est pas vraiment très impressionné par les artistes pop, étant donné qu'il a la sensation d'avoir défriché tout ça plusieurs années auparavant. Et j'ai trouvé cet extrait de Duchamp, donc Duchamp jugeant le pop art. Et alors c'est assez intéressant. Je vous le cite. Ce néo-dada qui prend maintenant les noms de nouveau réalisme, pop art, assemblage, etc., n'est qu'un amusement facile qui vit des conquêtes de dada. Quand j'ai inventé les ready-made, mon intention était de décourager le tohu-bohu de l'esthétisme. Mais les néo-dada se servent des ready-made pour découvrir leur valeur esthétique. Par défi, je leur ai lancé le porte-bouteille et l'urinoir à la figure, et voilà qu'ils les admirent pour leur beauté esthétique. Donc Duchamp est totalement sidéré par ce côté très, très sérieux hein, des artistes du pop art. Alors le pop art américain, ça désigne une tendance qui naît d'initiatives individuelles. Globalement, il y a deux artistes qui préfigurent ce mouvement, c'est Jasper Jones et Robert Rauschenberg. Alors, Jasper Jones, c'est un artiste qui naît en 1930, et les premières peintures qu'il exécute présentent en fait des motifs récurrents. Alors ça va être des cibles, ça va être des drapeaux américains, et en fait il fait des séries, avec des couleurs différentes, avec des positions différentes, et le choix de ces objets emblématiques, et notamment le choix des drapeaux américains, ça va faire l'effet d'une bombe. Et ça va beaucoup influencer les artistes du pop art, qui vont s'intéresser aux grandes icônes, aux grands motifs de l'art de l'Amérique. Je pense ici à Warhol, qui va hisser au rang d'œuvre d'art toutes les icônes. Les icônes réelles, comme Marilyn Monroe, comme Jackie Kennedy, ou les icônes les plus placides, les plus matérielles, que sont les boîtes de soupe Campbell, les bouteilles de Coca-Cola. Donc ces artistes du pop vont vraiment être très ancrés dans le réel et vont faire de ce réel une œuvre d'art. Donc les trois tableaux de Jasper Jones, et pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Parce qu'il y a ce jeu sur les lettres, alors je ne sais pas si vous les voyez ici, il intègre des caractères au pochoir, et ça va être aussi une des grandes caractéristiques de Jones. Autre artiste précurseur, c'est Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg, c'est un peintre qui naît en 1925. Il est mort il n'y a pas très longtemps, il est mort en 2008. Et en fait, c'est un des peintres qui va vraiment marquer la rupture entre l'expressionnisme abstrait et le pop art. Et donc, il choisit de s'ancrer délibérément dans la vie. Il va travailler beaucoup à partir du collage, notamment, ou alors carrément avec des assemblages d'objets glanés ça et là. Un exemple, Lincoln, qui est conservé à Chicago. Et alors, tout à l'heure, voilà, je vous parlais de disposition et d'assemblage. Là, c'en est un bon exemple, hein, puisqu'on voit qu'il intègre des éléments qui n'ont rien à faire là, comme ce pneu dans la partie inférieure. Les artistes pop donc vont s'ancrer dans le réel et vont faire du réel, même le réel le plus vil, le plus sordide, une œuvre d'art. Ils vont rencontrer un succès fou. Les collectionneurs s'arrachent leurs œuvres. C'est un art qui est très ludique, donc c'est un art qui est très plaisant pour le public, même si des fois le public s'augosse un peu en disant oui, c'est quand même vraiment du n'importe quoi. Il y a quelque chose de très drôle. Du coup, c'est un art qui est très populaire et ça va être aussi, mine de rien, dénigré par par les contempteurs. C'est-à-dire que ce côté très populaire, ce côté très facile, bah, ça va être un argument de poids pour dénigrer ce mouvement-là. Et c'est vrai que les collectionneurs, voyant ce succès fou des artistes pop, ne vont pas hésiter à injecter des sommes d'argent phénoménales. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce que ces collectionneurs n'ont pas injecté des sommes d'argent parce que c'était un art jugé rentable, plus que parce que c'était un art qui leur plaisait. Et les critiques ont beaucoup joué sur ce type d'argument pour critiquer le mouvement du pop. Et j'ai trouvé un extrait de... Ce sont les mots d'un collectionneur, un grand, grand collectionneur américain qui s'appelait Léon Krausser. Et la façon dont il parle du pop est assez salace, en fait. Et c'est vraiment un collectionneur qui réagit comme un actionnaire et pas vraiment comme un amateur d'art. Et donc je vais vous le citer, et puis on y reviendra brièvement. Donc voici ce qu'il dit à propos du pop. Tous ces autres trucs, c'est incroyablement vieux, c'est antédiluvien. Renoir, je déteste. Cézanne, de la peinture pour chambre à coucher. Tout ça se ressemble. Pareil pour les cubistes, les expressionnistes abstraits et le reste. Rien que de la décoration. Pas de satire, rien d'actuel, vraiment pas amusant. Cet art-là, c'est bon pour les vieilles dames, pour tous ces gens qui fréquentent les ventes publiques. C'est rien, c'est mort. Le pop, voilà l'art d'aujourd'hui, et de demain, et de toujours. Ces tableaux, c'est comme des actions d'IBM. Pensez-y, et c'est le moment de jamais ou jamais d'acheter, car le pop est immortel. Donc, il y a ce côté très, mine de rien, voilà, ce côté actionnaire un peu qui prime. Et donc, les critiques vont beaucoup jouer là-dessus, sur ce côté très commercial et très rentable du pop. Alors, c'est vrai, hein, ça c'est une dimension clairement qu'il ne faut pas évincer. Andy Warhol aura des déclarations tonitruantes à ce sujet. Mais il ne faut pas non plus voir ces artistes du pop comme de vulgaires businessmen, parce que ça serait injuste. Néanmoins... La fin de journée est difficile pour ma petite voix. Néanmoins, cette critique-là va être une critique récurrente. Roy Lichtenstein, alors ça, c'est un des artistes pop par excellence. C'est un artiste qui naît en 1923 et qui meurt en 1997. Alors lui, il est totalement fan de la culture populaire de son temps. Et il va travailler beaucoup sur la BD et beaucoup à partir d'images tirées d'illustrations, de publicités également. Et il est fasciné en fait par la neutralité et par l'aspect léché de la publicité. Les hachures, les aplats de couleurs, la trame des points, ça va vraiment devenir son langage artistique. Alors j'ai choisi cette œuvre-là, Fille avec une balle, parce qu'en fait, alors malheureusement j'ai pas trouvé le journal, mais en fait c'est la transposition en peinture d'une publicité à l'époque pour des jeux nautiques, bref. Et cette publicité, bon alors elle est, on peut la trouver sur le net, mais malheureusement l'image était tellement petite qu'il aurait été ridicule de vous la présenter. Mais en fait c'est une publicité qui était dans les magazines américains type le magazine Life, et on voit donc une petite nymphette sur la plage en train de jouer au ballon, et donc Roy Lichtenstein reprend ce motif là et injecte de la couleur et donne un côté très, très léché, très bande dessinée à cette femme-là. Rêverie. Alors là, c'est vraiment une œuvre qui est symptomatique de Lichtenstein. Tout à l'heure, je vous parlais de cette trame de petits points qu'il emprunte à la bande dessinée. Et en fait, Lichtenstein va peindre des tas et des tas de femmes blondes, l'air éploré, regrettant leur bien-aimé, avec des phrases type la mélodie hante ma rêverie. Côté très kitsch et côté très douceâtre un peu de l'amour et de l'amourette. Andy Warhol. Alors Andy Warhol, c'est vraiment l'archétype de l'artiste pop. Et je le disais tout à l'heure, il a un côté très, très businessman. Et c'est un des personnages qui a fait la célébrité du pop, mais c'est aussi un des personnages qui a donné pas mal d'arguments pour la critique, pour dénigrer justement ce mouvement-là. Donc Andy Warhol, il va s'attaquer aux icônes de la culture de masse, hein, je l'évoquais précédemment. Et là, c'en est un exemple radical, hein, les boîtes de soupe Campbell. Donc, c'est des des représentations de soupe qui sont disposées les unes à côté des autres au MoMA à New York. Donc l'élément le plus banal de tout Américain des années 60, donc cette fameuse boîte de soupe, est hissée au rang d'œuvre d'art et surtout cerne le spectateur dans le musée. Donc ça, c'était vraiment le grand truc d'Andy Warhol, c'est-à-dire récupérer les grandes icônes américaines de l'époque et en faire un objet célébré, un objet vénéré et un objet coûteux, évidemment. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il employait également des icônes, de vraies icônes. Bon, Jackie Kennedy, alors ça, c'est vraiment l'icône américaine par excellence, des années 60. Et il a fait notamment toute une installation où on voit Jackie Kennedy pendant et après l'attentat de 63. Et donc, bon, mine de rien, cet attentat, c'est quelque chose de très... cet attentat. Ce meurtre, c'est quelque chose qui a profondément choqué l'Amérique. Hein, ça a été un véritable traumatisme. Et Andy Warhol ne se soucie pas vraiment de ce côté traumatisant. On aurait pu imaginer qu'il allait éviter de prendre des sujets aussi houleux et aussi douloureux. Et en fait, il ne va pas hésiter, par exemple, à prendre des photos de Jackie Kennedy en train d'assister aux funérailles. Donc, il désacralise absolument tout. Il n'a aucun respect pour la douleur de l'icône absolue des États-Unis, par exemple. Tout peut devenir art. Il y a aussi des photos qu'il avait prises d'un accident d'ambulance, où on voit donc le pauvre ambulancier qui est complètement défenestré, sanguinolent, décédé évidemment, et hop, des images très crues, très chocs deviennent œuvres d'art. Je pense également, alors je ne les ai pas trouvées, hein, c'est pour ça que je vous en parle, je pense également à ces clichés sur les chaises électriques. Bon, là aussi, c'est des sujets très, très pesants, très douloureux, et c'est des sujets qui dépersonnalisent totalement, c'est-à-dire qu'il prend le motif pour ce qu'il est, un motif, et il va le représenter à foison, et il y a ce côté, donc du coup on retrouve ce côté très désacralisant. Autre icône, alors bon, qu'on a vu et revu, la Marilyn d'Andy Warhol. Autre artiste, James Rosenquist, c'est un artiste qui est né en 1933. Bon, alors ça, c'est une composition intitulée F111. C'est une œuvre immense. On ne dirait pas comme ça, mais elle fait 26 mètres de long. Donc c'est vraiment une œuvre gigantesque. Et en fait, on a l'image fragmentée d'un avion. On le voit là tout au long de la toile, d'un avion à réaction qui traverse en fait toute une frise d'images. Alors des images un peu hétéroclites, hein. Il y a un pneu, il y a une petite fille sous un casque de salon de coiffure, il y a ce champignon atomique dont le champignon justement devient un parapluie, il y a un plongeur, des spaghettis, bon bref, toute une kyrielle d'images hétéroclites. Et qu'il assemble petit à petit. Donc toujours ce goût pour la réalité et des fois une réalité un peu absurde et un peu vile, notamment cette espèce de plâtras de spaghettis dans la partie droite qui n'a rien à faire là. Claes Oldenburg. Alors, quand je disais tout à l'heure que les artistes pop s'intéressent à tous les objets du quotidien, même les plus vils, bon, bah, Claes Oldenburg, de ce point de vue-là, va prendre un malin plaisir à travailler sur les objets du quotidien. Au début des années 60, il va travailler sur des objets en plâtre. Des objets en plâtre qui vont dans son atelier, qui est intitulé, donc toujours cette vocation un peu commerciale, qui est intitulé The Store, le magasin. Et dans cet atelier, en fait, il y a des tas de répliques pas très ragoûtantes, d'hamburgers, de glaces, de gâteaux, bref, une pléthore d'aliments, donc toujours cette ode à la société de consommation. Et puis, dans un second temps, Claes Oldenburg va travailler sur des sculptures molles, en fait. C'est des sculptures en vinyle. Là, on a un exemple d'aliments en tout genre, hein, la glace, le hamburger. Parfois, c'est des compositions très immenses, hein, comme cet énorme gâteau. Et en fait, il va parodier toute cette nourriture, cette junk food américaine des années 60, dans des sculptures énormes et dans des sculptures un peu risibles et un peu qui ridiculisent cette société de consommation. Tom Wesselmann. Alors, Tom Wesselmann, c'est un artiste qui naît en 31. Il est mort, lui aussi, il n'y a pas très longtemps, en 2004. Et alors, Wesselmann va également s'intéresser à cette société de consommation américaine. Il va beaucoup travailler par collage. Bon, là, par exemple, cette composition qui est intitulée nature morte, on voit sur la table une pléthore d'aliments américains type les fameux Rice Krispies notamment à l'arrière-plan. Et toutes ces toiles de façon très très colorée vont être une ode à cette société de consommation. Et puis Tom Wesselmann, il est également très connu pour ses femmes, ses nus américains, qui sont présentées toujours de façon très... très glacée, très brute, ne cherche pas forcément à idéaliser la femme, même si on a un traitement très léché. Mais là, en l'occurrence, le nu n'est pas vraiment flatteur pour cette femme. Donc on voit les traces de bronzage, on a vu plus glamour. Et Tom Wesselmann va vraiment s'amuser à prendre des nus américains, des nus de femmes américaines, ou alors des morceaux de nus, pour donner des visions très, très brutes, et très, très radical de la féminité. Il écorne un peu ce mythe de la féminité. Là, tous ces artistes-là, ce sont des artistes new-yorkais. Je vous présenterai juste deux artistes californiens, parce que, mine de rien, le pop art a essaimé après sur tout le territoire des États-Unis. Mel Ramos, qui va beaucoup peindre des pin-up. Ça, les pin-up peuplent son univers artistique, des pin-up toujours présentés avec des outils très masculins ou des objets très masculins. Donc voilà, le côté très écervelé de la pin-up blonde californienne, il joue à fond de ce cliché-là et côtoyant des objets viril, en quelque sorte. Voilà, donc Mel Ramos d'un côté, et l'autre artiste californien aussi que j'aime beaucoup, c'est Wayne Thiebaud, qui lui va, à l'instar d'Oldenburg, travailler beaucoup sur l'alimentaire. Et il va réaliser des tas de toiles très léchées. Alors là, c'est de la toile, c'est des huiles. Il va réaliser des pléthores de gâteaux et d'aliments en tout genre, dans des tons très pastels et très doux. Voilà, donc le gâteau... l'aliment le plus banal va être érigé au rang d'œuvre d'art. Donc là, on a cette série de cakes, et puis on a là aussi une autre disposition qui valorise, qui sublime le gâteau américain. Je conclurai rapidement sur ces deux mouvements. En fait, voilà, ça c'est des mouvements qui émergent aux États-Unis, donc dans les années 50 et 60, deux mouvements très différents. C'est-à-dire qu'on a l'expressionnisme abstrait, qui, je le disais tout à l'heure, est un mouvement qui fait la part belle à la subjectivité de l'artiste, et puis surtout un mouvement qui fait la part belle à l'artiste tout court. C'est-à-dire que ces artistes abstraits, ce sont des artistes qui ont une très haute conscience de ce qu'ils sont, et de leur valeur, et surtout de leur rapport. Ce sont des artistes qui se sentent pertinemment comme des novateurs. Et il y a une pleine confiance en leur art. C'est un art très intellectualisé, je le disais tout à l'heure, et finalement le pop art va arriver et va vouloir casser cette mécanique. Il juge que ces artistes se prennent trop au sérieux, il juge que leurs œuvres sont devenues trop absconses, inintelligibles pour monsieur tout le monde, et donc ils vont se lancer dans quelque chose de beaucoup plus radical et de beaucoup plus frontal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces artistes pop sont profondément iconoclastes, bon, déjà parce qu'ils rompent avec les conventions, mais surtout, ils osent s'attaquer à cette avant-garde qu'était l'expressionnisme abstrait, qui avait fait que l'Amérique reprenait confiance en elle et pouvait s'imposer et pouvait être apte à rivaliser avec la vieille Europe. Ils cassent cette mécanique-là. Tout à l'heure, j'évoquais Roy Lichtenstein. Il va beaucoup se moquer d'expressionnisme abstrait. Il y a une série de toiles notamment où il avec ce côté bande dessinée, donc avec cette trame de petits points et ses couleurs très vives, jaune, rouge, bleu, il va singer le geste, le sacro-saint geste des expressionnistes abstraits. On a des toiles de Lichtenstein où il y a simplement un coup de pinceau avec des couleurs très vives, avec cette trame de petits points, donc comme si c'était un coup de pinceau extirpé d'une bande dessinée. Voilà, donc pour les artistes du pop, l'art est un gag. Et l'expressionnisme abstrait, aussi puissant et aussi novateur qu'il soit, n'est qu'un mouvement parmi tant d'autres. Surtout, il est le fait d'artistes qui jugent avec beaucoup d'ironie et avec beaucoup de dérision. Pour finir sur le pop, donc je l'ai dit tout à l'heure, mine de rien, c'est un art qui se revendique quelque part de Dada, qui est tout à fait dépositaire de son héritage. Et On a reproché donc la facilité, le côté business, donc le côté un peu négatif de cet art. En tout cas, ce nouvel ancrage dans le réel va vraiment influencer les artistes américains qui vont suivre, les artistes des années 60 et des années 70. Et ça va vraiment ouvrir de nouvelles perspectives. Et je pense notamment au nouveau réalisme. Donc là, je fais une ouverture, hein, je m'arrêterai là, avec des artistes comme Alex Katz, donc des peintres hein, qui s'intéressent à une vision très réaliste, à une vision sans concession de la vérité, de la réalité. Et puis je pense également à un mouvement comme l'hyper-réalisme, avec des artistes comme Chuck Close, alors Chuck Close, bah, en voici, c'est de lui, hein, c'est un autoportrait, donc voici Chuck Close. Je pense aussi à des artistes comme Dwan Hanson, qui réalise des sculptures hyper réalistes. C'est lui notamment qui a réalisé La ménagère américaine avec ses bigoudis et son caddie, et l'air pas vraiment épanoui par le fait de faire des courses. Bon, voilà, donc un ancrage dans le réel brut et sans concession. Je pense notamment aux personnages de Dwan Hanson. C'est vraiment pas des personnages qui célèbrent l'humain. C'est vraiment l'humain dans tout ce qu'il a de plus simple, de plus repoussant parfois. Et tous ces artistes-là, mine de rien, vont être très redevables donc de ce nouveau goût pour la réalité et pour le réel. Et puis je terminerai par un autre mouvement qui a priori n'a rien à voir mais qui pourtant a tout à voir, c'est l'art conceptuel. L'art conceptuel qui apparaît aux États-Unis à la fin des années 60 et au début... Il est temps que ça s'arrête. Et au début des années 70, pardon. Et l'art conceptuel, il est défini par Sol Levitt, qui est un des grands artistes conceptuels, comme un art s'adressant à l'esprit du spectateur plutôt qu'à son regard ou à ses émotions. Et l'art conceptuel, bah, c'est l'iconoclasme à l'état pur, dans le sens où c'est l'acte mental qui prime sur la mise en œuvre proprement dite. Et toute cette volonté donc de privilégier la pensée sur le faire, elle est aussi très largement redevable à Dada et à tous ces néo-Dada qu'ont été les artistes pop. Voilà, merci et désolée pour la fin. Thank you.